Religion du monde, Geneviève Delru.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Étouffée par les cendres de l'incendie qui l'a ravagée lundi soir, l'orgue de Notre-Dame restera muet ce dimanche de Pâques. Et la nef de Notre-Dame sera douloureusement vide, éclairée par la lumière du trou béant creusé lors de la chute de la flèche qui s'élevait au-dessus de son toit. Mais ces deux tours, la rosacée du XIIIe siècle offerte par Saint-Louis, ont résisté. Notre-Dame est meurtrie, et avec elle la France et le monde, mais Notre-Dame de Paris est debout et peut compter sur l'afflux de dons, 124 millions déjà récoltés mardi soir, et le talent des architectes et des ouvriers qui mettront leurs pas dans ceux des bâtisseurs des cathédrales du Moyen-Âge. Son d'archives, témoignages, réactions à chaud, musique, il faut bien tout cela pour prendre la mesure de ce que la cathédrale Notre-Dame de Paris représente, incarne l'histoire de France, l'histoire religieuse, politique, pour mieux saisir aussi la portée de cet incendie, non seulement sur le plan patrimonial, mais aussi spirituel, également comprendre ce que l'incendie a révélé de l'inconscient collectif et de l'idée de nation. Avec nous dans ce studio, Michel Coll, essayiste, spécialiste de l'Église catholique, ancien rédacteur en chef de Témoignages chrétiens et de l'hebdomadaire La Vie, et Lucille de Trémiol, chef de chœur à la maîtrise Notre-Dame de Paris et directrice artistique du festival Le Temps Suspendu de Saint-Benoît-du-Sault, village médiéval à la frontière du Berry et du Limousin. À vous deux, merci pour votre présence dans ce studio. Lucille, un silence aigu, j'allais dire, un silence douloureux, pas d'orgue, pas de chant à Notre-Dame en ce dimanche de Pâques. Vous, qui avez été toute petite à la maîtrise, puis après qui êtes devenue chef de chœur à la maîtrise de Notre-Dame de Paris, qu'est-ce que ça vous fait ?
Oui, effectivement, je dois dire que le choc a été immense de voir lundi soir la cathédrale prise aux flammes. Je crois que nous tous à la maîtrise, des plus jeunes enfants aux adultes professionnels, tous les pédagogues, les chefs de chœur, nous avons été très émus de voir... Voilà, cette si belle cathédrale qui est notre maison, certains comme moi habitent avec la cathédrale depuis plus de 20 ans. C'est très émouvant, mais je dois dire que, comme vous l'avez dit, la cathédrale est debout et la maîtrise de Notre-Dame est debout et va continuer sa mission de chant. Elle est plus que jamais l'ambassadeur de la cathédrale de Notre-Dame aujourd'hui et nous avons déjà beaucoup d'invitations pour pouvoir continuer notre mission de liturgie, de saison de concert et de formation.
Qu'est-ce qui était prévu ? Qu'est-ce qui est prévu pour Pâques ?
Alors, la grand-messe de Pâques se déroulera à Saint-Eustache.
La maîtrise va chanter ?
La maîtrise sera effectivement réunie pour chanter la messe de Pâques à Saint-Eustache.
Michel Coll, vous avez beaucoup écrit sur l'Église, sur la vie de l'Église, sur le christianisme. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir Notre-Dame prise dans les flammes ?
Beaucoup de chagrin. Voilà, beaucoup de chagrin, comme beaucoup de Français. J'ai eu un immense chagrin. J'ai eu le sentiment, vous vous souvenez de cette phrase de Georges Pompidou, quand le général de Gaulle était mort, la France est veuve. Et j'ai ressenti quelque chose de l'ordre du veuvage. Comme si quelqu'un de ma famille disparaissait sous mes yeux. Et dans l'impuissance totale où nous étions, nous, devant la cathédrale elle-même, puisqu'il y avait une foule immense qui était là en train d'observer ce drame, soit devant son écran de télévision. Cette impuissance à pouvoir secourir cette vieille dame, cette noble dame qui veille sur nous depuis plus de 800 ans, où tant de nos ancêtres sont passés, sont venus prier, sont venus visiter comme de simples touristes. C'est un arrache-cœur. Enfin, c'est vraiment... Vraiment, j'ai eu l'impression de perdre quelqu'un de ma famille. Et je crois que Notre-Dame de Paris, que l'on soit catholique, que l'on ne soit pas, représentait pour beaucoup de Français la maison. Et tous les témoignages qu'on a pu recueillir depuis cette semaine tragique que nous venons de vivre, c'est ça, on a perdu une maison. Alors on va la reconstruire, c'est vrai, mais elle sera jamais tout à fait comme elle était, en particulier la forêt. Hein, la forêt qui datait de Saint-Louis, vous rendez compte, Saint-Louis. Je suis très touché parce que j'ai écrit un livre sur Saint-Louis, donc c'est l'église de Saint-Louis qui a disparu sous nos yeux. Cette voûte qui est partie en fumée, elle est décoiffée, Notre-Dame. C'est une grande dame, une belle dame qui a perdu sa chevelure.
Oui, ce bois du 12e siècle, trop sec.
Et Geneviève qui a inspiré tant d'artistes, tant de poètes, tant d'écrivains, enfin, tant de musiciens aussi. Je pense à Peggy, bien sûr, mais je pense à Théophile Gautier, je pense évidemment à Victor Hugo. Tous ceux qui ont fait que cette cathédrale est devenue une héroïne de notre roman national, du roman français, et elle était connue comme cela et dans le monde entier.
Et là, on pense à Bossuet aussi.
Et on pense à Bossuet, bien sûr.
Et à ses sermons.
Et permettez-moi, Geneviève, je pense à Lacordaire aussi.
Absolument.
Qui a fait de la chaire, qui a inauguré ce qu'on appelait les grandes conférences de Carême,
qui perdurent. Qu'on connaît peu d'ailleurs. Expliquons à nos auditeurs ce que sont ces conférences de Carême.
Eh ben, la conférence de Carême, c'est pendant les 40 jours qui précèdent, 40 jours de temps liturgique, qui précèdent donc la grande célébration de Pâques. Ce sont des conférences qui ont été, en effet, créées par les dominicains, en particulier le père Lacordaire, enflammé, et qui ont pour but, si vous voulez, d'édifier spirituellement les chrétiens pour les préparer à vivre à la fois ce temps de jeûne qui est le carême, ce temps de mémoire de la mort du Christ qui est la semaine sainte qui vient de s'achever, et puis ce bouleversement inouï de la résurrection qui est le dimanche
de
Pâques.
Oui, et puis aussi un grand moment de réflexion sur notre société.
Absolument. Hein,
qui pose aujourd'hui, c'est différent aujourd'hui d'il y a un siècle.
Là, j'ai évoqué vraiment les conférences de Carême dans leur tradition originelle. Aujourd'hui, en effet, nous avons affaire à des conférenciers de haute tenue et qui, en effet, font ce lien entre foi et société, foi raison,
foi culture.
Et voilà, Notre-Dame de Paris était un symbole, justement, de ce rapport entre la foi et la culture.
Lucile de Trémiol, il y a 4 chefs de chœur. Hein.
Oui, voilà. Effectivement, Henri Chalet est le chef de chœur principal.
Oui.
Il travaille avec les étudiants en formation professionnelle. Émilie Fleury travaille avec le chœur d'enfants, qui sont les collégiens, et le jeune ensemble, qui sont les lycéens. Et moi, je m'occupe des enfants qui sont à partir de 6 ans jusqu'à 11 ans, qui font tout un travail préparatoire.
Alors, quand vous travaillez avec eux, est-ce que les questions de sécurité, vous les aviez vraiment bien en tête? Est-ce que vous saviez que, qu'il y avait des risques d'incendie?
Pas particulièrement. En fait, l'essentiel du travail se déroule au boulevard Saint-Germain. Nous avons un lien très fort avec la cathédrale. Nous répétons très souvent là-bas. Et puis, bien sûr, il y a tous les offices qui sont assurés par la maîtrise. Nous savons que la grande dame est, comme vous l'avez dit, aussi une vieille dame. Elle est immense par les temps qu'elle a traversés. Donc, évidemment, on n'est jamais à l'abri de rien, même si on ne peut rien prévoir.
La forêt, ce que l'on appelait la forêt, c'est-à-dire cette magnifique charpente du 12e, 13e siècle, vous l'aviez visité parce que c'était pas accessible à tout le monde.
Hein. Absolument, je l'ai visité et ça a été un moment très émouvant, particulièrement, de voir cette charpente immense et si ancienne aussi, d'imaginer les arbres qui ont probablement poussé dès le 9e siècle. C'est vrai que c'est très émouvant. Ça nous rattache forcément à un passé, à des temps immémoriaux. Et c'est pour ça aussi, je pense, qu'on est si ému, comme vous disiez, de cet incendie.
C'est très beau ce que dit Lucile, parce que me vient un vers de Guilvic, le grand poète Eugène Guilvic, qui disait « On peut comparer les hommes à des arbres qui ont le sourire de leurs racines. » C'était des racines du ciel, quelque part. Hein. C'est cette charpente, cette forêt extraordinaire que Saint-Louis a pu peut-être voir et toucher de ses doigts. Alors c'est ça qui fait du mal, mais on va la reconstruire. Et c'est peut-être aussi l'énergie retrouvée d'un peuple entier. Hein. Il va y avoir les hommes de métier. Mais je pense aussi, croyants et non-croyants vont vouloir que cet édifice au cœur de Paris retrouve sa place, toute sa place, hein, pour que les amoureux qui se promènent sur les quais puissent se faire photographier devant cet édifice. Notre-Dame de Paris, c'est aussi la carte postale romantique.
Alors, Michel Coll, c'est arrivé aussi à un moment particulier. Alors, je lirai de l'histoire de France, les gilets jaunes, les incendies qu'on a pu voir, les Champs-Élysées notamment, et puis pour l'Église, un moment de crise, avec toute la question des scandales, d'abus sexuels révélés. Double crise.
Oui, alors ce qui a été dans la douleur, ce qui a été d'une certaine manière consolateur plutôt, c'est l'union sacrée. Oui. Exprès des mots. L'union sacrée qui s'est faite entre des gens de différentes sensibilités politiques, religieuses, culturelles, autour de ce vaisseau extraordinaire de l'île de la Cité, qui flambait, et parce que chacun sentait qu'il y avait quelque chose de la France éternelle, finalement, qui était touché au cœur. Je souhaite, moi, que cette union sacrée puisse perdurer après que, durant tous ces derniers mois, notre pays ait été traversé par des mouvements qui ont profondément distendu les relations entre les Français. Mais bon, cette union sacrée, est-ce qu'on pourrait pas essayer de la faire perdurer? C'est ce que je me dis, pour des objectifs importants. Bon, alors reconstruire la cathédrale, mais aussi reconstruire le tissu social, le tissu national, qui est aujourd'hui, c'est vrai, très, très déchiré, quoi.
Et alors, la crise de l'Église aussi.
Alors, pour moi, je ne sépare jamais la société de l'Église. L'Église, évidemment, elle aussi, très spécifiquement, et profondément marquée par, évidemment, tout le monde pense au scandale des prêtres pédophiles, mais aussi à la crise de gouvernance que cela a entraîné. Et c'est vrai que les chrétiens vont devoir lire ce qui se passe dans leur Église à l'aune aussi des, ce qu'on appelait des signes des temps, hein, c'est-à-dire des, regarder dans l'histoire ce qui nous parle.
Ça, c'est très Paul VI, ça, les signes
c'est
des temps.
C'est très Paul VI, oui.
Vous êtes un spécialiste de Paul
voilà,
VI.
Voilà. Très Concile Vatican II, c'est-à-dire oui. Essayer de alors faut pas projeter nos fantasmes sur ce qui arrive non plus, mais essayer de décrypter en lisant les textes, les écritures et en essayant d'avoir une interprétation la plus juste possible des événements, ce que cela veut dire pour l'Église, c'est-à-dire que moi il y a une phrase qui me revient tout de suite, c'est la fameuse phrase que Saint François d'Assise avait entendue quand il était dans une chapelle perdue de Lombrie, qui était dévastée, abîmée, et il a entendu une voix qui lui a dit « Répare mon église ». Alors évidemment, ça voulait dire « Bah, viens rafistoler ma petite chapelle », mais est-ce que ça voulait pas dire aussi eh bien, il faut la renouveler, cette église. Il faut lui redonner son bain de jouvence.
Et d'ailleurs, ça a été évoqué. Hein,
et ça a été évoqué.
Par Monseigneur Aupetit. Hein.
Par Monseigneur Aupetit, l'archevêque de Paris. Oui. C'est vrai que c'est une invitation, peut-être, aussi à retrousser ses manches, à devenir un bâtisseur d'une église spirituelle, celle-là, mais qui parle à notre monde et qui soit surtout cohérente. Cohérente entre le message qu'elle prétend annoncer, l'évangile, et qu'elle réponde aux attentes spirituelles et humaines qui aujourd'hui s'exprime dans notre monde.
On va écouter les réactions nombreuses. Hein. On va commencer avec celle du président Emmanuel Macron, qui a remis donc l'allocution télévisée qui devait conclure la grande consultation lancée pour résoudre la crise des Gilets jaunes. Et puis ensuite, nous entendrons quelques réactions de la part de religieux. On écoute.
Ce qui s'est passé ce soir à Paris et dans cette cathédrale Notre-Dame est évidemment un terrible drame. Alors je veux ce soir avoir bien entendu avant tout une pensée pour les catholiques de France et partout à travers le monde, en particulier en cette semaine sainte. Je sais ce qu'ils ressentent et nous sommes avec eux. Et je veux aussi avoir une pensée pour l'ensemble de nos compatriotes. Parce que Notre-Dame de Paris, c'est notre histoire, notre littérature, notre imaginaire, le lieu où nous avons vécu tous nos grands moments, nos épidémies, nos guerres, nos libérations. C'est l'épicentre de notre vie. Alors je vous le dis très solennellement ce soir, cette cathédrale, nous la rebâtirons, tous ensemble.
Alors, nous la rebâtirons, Michel Kohl, cette cathédrale.
Tous ensemble. Très important.
Eh oui, c'est ça qui est important aussi.
Et en écoutant le président de la République, c'est vrai, me revenait ce long cortège qui sont rentrés dans cette cathédrale. C'est impressionnant depuis qu'elle a été construite. En effet, Saint-Louis, qui vient là, les pieds nus, la tunique, avec une tunique toute simple, avec son frère Robert, comte d'Artois, porter les reliques de la Passion. Je pense à Louis XIII qui est venu là aussi dédier son royaume à la Vierge Marie. J'ai un peu sauté une étape aussi. Il y a un truc très important, le petit-fils de Saint-Louis, Philippe le Bel, convoque dans Notre-Dame les premiers états généraux. On l'a oublié.
Oui.
Les premiers états généraux ont eu lieu dans Notre-Dame. Donc c'est une maison du peuple aussi, c'est une maison du peuple de France.
Révision du procès de Jeanne d'Arc aussi.
Révision du premier Jeanne d'Arc. Oui. N'oublions pas non plus ces grands personnages aussi, Napoléon, qui s'est couronné devant le pape Pie VII. C'était un pape qui est venu. Et il y a eu beaucoup de papes après qui sont venus visiter ce gars. Et puis, on oublie souvent quand même, il y a beaucoup de saints. Et évidemment, moi, je pense tout de suite à Paul Claudel. Hein, vous souvenez que dans la cathédrale, il y a un pilier, il y avait une plaque qui disait « C'est ici que Paul Claudel a fait la rencontre avec le Christ, enfin, s'est converti ». Tout ça est quand même incroyablement extraordinaire. Et oui, il faut la rebâtir tous ensemble.
Lucille, oui. Je voulais dire justement que Paul Claudel, sa conversion avait eu lieu pendant les Vêpres, au moment où les enfants chantaient le Magnificat, qui a été quand même un moment, je crois, bouleversant d'y penser. Effectivement, je crois que les enfants ont un rôle très particulier à jouer dans la liturgie aussi aujourd'hui.
Et Lucille, si vous me permettez, le Magnificat, c'est un chant, vraiment, c'est le chant de Notre-Dame, puisque en juillet 44, lors de la libération de Paris, le général de Gaulle demande à ce que soit chanté le Magnificat, et non pas un Te Deum, le Magnificat. C'est ça qui est extraordinaire. On va chanter le Magnificat alors qu'il y a encore des bruits de bottes et surtout des coups de fusil dans Paris. Absolument. Et ce Magnificat est resté un moment très émouvant.
Et pourtant, on parle toujours de Te Deum, Michel
Non,
Cole.
Non, c'est une erreur historique. C'est Magnificat.
C'est vraiment le Magnificat.
Souvenez-vous que le général de Gaulle à Londres parlait de Notre-Dame la France, et quand il disait Notre-Dame de France, je pense qu'il pensait à Notre-Dame de Paris.
Alors, c'est Monseigneur Chauvet, donc, qui est le recteur de Notre-Dame de Paris, que vous devez bien connaître, Lucille, qui a raconté que Emmanuel Macron et lui se sont instinctivement donné la main, ça je trouve ça vraiment très beau, lorsque tous les deux sont rentrés dans la nef de la cathédrale, une fois bien sûr le feu maîtrisé. Monseigneur Chauvet qui a regardé incrédule, dans un état véritablement de sidération, sa cathédrale, on peut dire sa cathédrale, en flammes.
Quand vous voyez un monument que vous aimez, un monument que vous habitez, un monument que vous célébrez, un monument qui représente tellement pour notre histoire, c'est une profonde tristesse. Et j'ai dit au bon Dieu, pourquoi ? Voilà. Je pense que j'aurai la réponse quand j'arriverai au ciel.
On retrouve l'humour de Monseigneur Chauvet. Même grande tristesse de Monseigneur Michel Aupetit, archevêque de Paris, depuis décembre 2017.
Notre-Dame brûle et la France entière pleure et le monde entier aussi est sous l'émotion extrême. Je reçois des messages du monde entier, de tout le monde. Tout le monde est véritablement bouleversé. Bien sûr, nous sommes nous-mêmes complètement chaos. Le premier message que j'ai reçu, par exemple, c'est celui du grand rabbin de France, Raïm Korsia, qui m'a dit « C'est notre lieu à tous et je pleure avec toi ». Voilà, je voulais remercier aussi les pompiers qui ont pu sauver les deux tours. Ils risquent leur vie à chaque fois. On peut les remercier vraiment parce qu'ils sont d'un courage inouï et d'un professionnalisme extraordinaire. Je remercie bien sûr Monsieur le Président d'être venu, Madame la Maire, d'être venue et tous de mettre en œuvre tous leur savoir-faire. Aujourd'hui, Paris est en prière tout entier. Toutes les églises se sont ouvertes. Toutes les églises sont en train de prier. Il y a une centaine de jeunes à la fontaine Saint-Michel qui sont en train de prier. Donc tous ensemble, nous sommes unis dans ce grand malheur qui nous touche et qui, au-delà de la France, touche le monde entier.
Michel Cole, que retenez-vous des mots de Monseigneur Aupetit ?
Je retiens une chose, c'est qu'il a pris acte d'une chose que je trouve extraordinaire, c'est que même dans les flammes, même menacée d'être réduite en cendres, la cathédrale était un vecteur de rassemblement. C'est ça qui est extraordinaire. La première personnalité qui témoigne, excusez-moi, ça me vient comme ça, de ses condoléances quasiment,
c'est vrai.
À l'archevêque de Paris, c'est le grand rabbin de France.
Moi,
ça me touche énormément. Oui. Ça me touche énormément. C'est-à-dire que on est au-delà, je dirais, des clivages tout à fait respectables et respectueux qui font que notre pays est un pays divers, pluriel. Là, on se retrouve tous au chevet de cette noble, grande et belle dame qui était Notre-Dame de Paris.
Alors, l'archevêque donc de Paris, Monseigneur Aupetit, qui a concélébré la messe chrismale. Et à Saint-Sulpice, bien sûr, hein, puisqu'il fallait bien trouver un autre lieu, un grand lieu, avec 400 prêtres, 100 diacres, 100 séminaristes, des religieuses, des milliers de fidèles à l'intérieur et à l'extérieur sur le parvis. Une messe un peu exceptionnelle, puisque pour la première fois, je pense, il y avait l'épouse du président de la République, il y avait la maire de Paris pour cette messe chrismale qui, bon, généralement réunit uniquement le clergé du diocèse de Paris. Donc c'est quand même un moment tout à fait exceptionnel. Et je pense que c'est pendant son homélie, c'est cela. Monseigneur Aupetit a dit, voilà, certes, la cathédrale est à genoux, mais l'église, ce sont des pierres vivantes. Alors, Lucille, ça vous parle, ça ?
Absolument, les pierres vivantes, on relie... Moi, en tout cas, je relie forcément cela à la musique. Depuis le Moyen-Âge, on cherche la manière dont les pierres vont pouvoir vibrer en symbiose avec la musique. L'architecture et la musique, l'acoustique sont très très liés dès le Moyen-Âge. Et les voûtes de Notre-Dame sonne d'une manière très particulière à laquelle tous nous sommes particulièrement attachés. Et puisque je suis donc ici l'ambassadeur de la maîtrise, nous avons, nous, cette mission effectivement de rendre vivante la liturgie, de rendre vivante les pierres de Notre-Dame par la musique, par tous les compositeurs, les maîtres de chapelle qui sont passés par Notre-Dame. On parle des... même avant la construction de Notre-Dame, d'un cœur, probablement d'un cœur d'enfant, dès le 7e siècle. Puis, à partir du 12e siècle jusqu'au 15e siècle, l'école de Notre-Dame, l'école des enfants, est vraiment connue dans la France entière, dans l'Europe entière, grâce à ce qu'est le foyer intellectuel et culturel de Paris, grâce à son université. Et puis, au 16e, 17e, au grand siècle, la musique continue de résonner dans les voûtes de la cathédrale. Elle est un peu l'antichambre de la chapelle royale. Voilà, il y a eu un premier grand arrêt très abrupt, c'était le 22 novembre 1790 à la cathédrale, qui a donc fermé après le dernier office. Et on sait que les enfants sont revenus en 1813 à l'hôtel de Gaillon, qui est rue Massillon. On sait que la tradition perdure, que le chant perdure, qu'il sera toujours là. Aujourd'hui, il est hors les murs, mais il représente Notre-Dame.
Et avant, ça a été même pendant une période, hein, après 1790, ça a été un entrepôt, Michel Cole.
Oui, je crois que elle était même dédiée à l'être suprême.
À l'être suprême.
Ce qui était très touchant, j'écoutais Lucille, et j'ai envie de lui dire, vous avez fait chanter les pierres de Notre-Dame. Ça, c'est extraordinaire. Et en faisant cela, je pense que vous rappelez en chantant dans cette cathédrale que une cathédrale, c'est aussi une pierre vivante. C'est pas que des pierres mortes, vous les faites vivre, et qu'on croit en Dieu, qu'on n'y croit pas, c'est des pierres qui vivent, quoi.
Oui,
et c'est ça qui est extraordinaire, grâce au chant.
Effectivement, que c'est ce qui a particulièrement touché les gens. Mmh. J'ai l'impression que, non, ce n'était pas qu'un monument qui a brûlé. Mmh. C'est un lieu très fort et qui a parle beaucoup de gens parce qu'il est vivant.
Et on était très heureux aussi de savoir que l'orgue était sauvé, parce que vous êtes la voix et c'est une autre voix. Et moi, je me souviens des grands concerts de Pierre Cochereau, qui a été un des grands organistes historiques de cette cathédrale. Merci d'avoir pu sauver cette orgue.
Religion du monde, Geneviève Delru.
Avant d'ouvrir les pages d'histoire que nous racontent les pierres de Notre-Dame, ses vitraux, sa nef, son transept, on poursuit avec la réaction de religieux. Celle de l'archevêque de Kinshasa, Mgr Fridolin Ambongo, qui est venu récemment à Paris. D'ailleurs, il a été l'invité de Religion du monde il y a quelques semaines. Et puis on écoutera ensuite celle du grand rabbin de France, Raïm Korsia.
Je suis profondément attristé par ce que je vois la cathédrale Notre-Dame de Paris partir en fumée. D'autant plus que moi-même, j'étais dans cette cathédrale il y a un peu plus de 2 semaines. J'ai concélébré le samedi soir, le 29 mars, avec l'archevêque de Paris dans le cadre du programme La Nuit des Témoins. Je suis sidéré, mon cœur saigne pour ce patrimoine spirituel. Au-delà de sa valeur architecturale, Notre-Dame de Paris est d'abord pour nous la présence de Dieu parmi les hommes. C'est ça une église, c'est ça une cathédrale. Et voir ces monuments partir en fumée, ça fait tellement mal au cœur. C'est comme si nous chassions Dieu de notre société, d'une certaine manière. Même si c'est un accident, mais ça fait très mal.
Monseigneur Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa. Et puis, on va écouter à présent le grand rabbin de France, Raïm Korsia, joint sur son portable. Désolé, la ligne n'est pas très bonne. C'était jeudi, à la veille de l'ouverture de la grande fête de Pessah, la Pâque juive, qui célèbre la sortie d'Égypte des Juifs, fête de la libération de l'esclavage. Comme on l'a entendu avec Monseigneur Aupetit, le grand rabbin de France a réagi dès les premières flammes. Il a contacté ceux qui étaient plus directement touchés par l'incendie de Notre-Dame. Raïm Korsia, monsieur le grand rabbin, bonjour.
Bonjour.
Vous avez consolé des personnes évidemment très proches hein, de Notre-Dame, Monseigneur Aupetit, l'archevêque de Paris, le père Jacques Fournier qui a été chapelain pendant des années.
Oui, si vous voulez, c'était assez terrible. Je vivais ces images comme une grande souffrance. Et puis je me suis dit, on doit lever la tête, c'est-à-dire qu'on doit être capable de voir plus loin. Mais ceux qui sont dans l'instant ne peuvent pas le faire. Et donc, il a fallu que moi, peut-être de l'extérieur, je puisse leur dire, vous vivez le temps de la Pâque. Pour nous, c'est Pessah. Pessah, dans le judaïsme, c'est la sortie d'Égypte. Pour le chrétien, la Pâque, c'est la mort et la résurrection. Et ce principe, vous devez l'appliquer à ce bâtiment. Vous le voyez apparemment mourir, mais il va ressusciter au sens que vous allez le reconstruire. On va tous le reconstruire. Et quand je leur ai dit ça, ils m'ont dit, en fait, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils savaient pertinemment tout ce que je leur disais, mais ils étaient incapables de le retrouver, de le penser. Et c'est l'idée que parfois on a besoin de quelqu'un qui nous rappelle les choses essentielles de leur vie. Je suis très ému d'avoir pu partager cette vision avec mes amis avec lesquels je souffrais. C'est un peu le sens du psaume 91. Dieu nous dit « Imo anochi betzara » en hébreu, c'est très joli. Avec lui, je suis dans la souffrance. C'est pas pour nous dire qu'il nous accompagne dans la souffrance, c'est pour nous dire qu'il ne nous abandonne jamais. C'est de la même façon qu'il est avec nous dans la souffrance, il sera avec nous dans la libération.
Pour vous, Notre-Dame représente quoi, Raïm Korsia ?
D'abord, il ne faut jamais oublier, c'est un patrimoine de l'État. C'est l'État qui est propriétaire, et donc ça nous appartient à tous. C'est un lieu qui raconte notre histoire, nos engagements, notre fidélité, la capacité à espérer s'élever, non pas pour tourner le dos à cette condition humaine, mais pour la rapprocher du ciel. Et c'est tout l'enjeu de cette architecture gothique qui s'élève, qui fait de la lumière une matière.
Est-ce que vous avez pensé ce soir-là au cardinal Lustiger qui repose à Notre-Dame ?
J'ai pensé surtout à la prière qui avait été faite sur le parvis de Notre-Dame. Il avait demandé que, dans ses obsèques catholiques, il y ait sur le parvis le cadis qui soit prononcé par quelqu'un de sa famille, ce qui a été le cas. Et donc c'était vraiment aussi un pont. Ce lieu est une sorte de lieu espérance. Comme il y a des villes-mondes, il y a des lieux qui sont des ponts. Et moi, je sais que le rabbin Nachman de Breslav dit une chose magnifique. Il dit « Le monde entier n'est comme un pont étroit et l'essentiel, c'est de ne pas avoir peur. » Et c'est une occasion pour moi de rendre hommage au travail incroyable des pompiers qui ont tout risqué, vraiment, pour sauver tout ce qu'il y avait à sauver, et en particulier la tour nord. Ils ont sauvé quand les flammes ont commencé. Et si la cloche fondait, enfin, ou tombait, c'était là la catastrophe absolue. Donc ils ont sauvé ceux qui avaient à sauver. Donc finalement, avec la volonté et l'espérance, on arrive à transformer le monde.
Le cardinal Lustiger, décédé le 5 août 2007, aura profondément marqué la cathédrale Notre-Dame de Paris. Né dans le judaïsme, il est devenu catholique dans sa jeunesse, voyant dans le christianisme l'accomplissement des Écritures. Ça n'était donc pas une conversion au sens commun du terme. Retour sur ce 10 août 2007, jour de ses obsèques à Notre-Dame, avec la prière du Kaddish, récitée donc sur le parvis.
De la terre prélevée en terre sainte, au mont des Oliviers. L'arrière-petit-cousin du cardinal Lustiger la dépose sur le cercueil. Le Kaddish, la prière juive pour les morts sur le parvis de Notre-Dame de Paris, l'hommage de toute une communauté venue saluer la mémoire d'Aaron Jean-Marie Lustiger, juif converti au catholicisme à l'âge de 14 ans. 500 prêtres, 70 évêques, des représentants orthodoxes, musulmans, juifs, que fédère une personnalité atypique. Aux côtés de la famille, le président Sarkozy, des personnalités comme Lech Walesa ou Bernadette Chirac, des membres du gouvernement et les immortels de l'Académie française, dont il fut membre dès 1995. La République et l'Église réunies pour un ultime hommage. Le cardinal Jean-Marie Lustiger reposera dans une crypte aux côtés de ses prédécesseurs. Sa dernière demeure sous le cœur de la cathédrale Notre-Dame, sa paroisse, pendant près d'un quart de siècle.
Monseigneur Mathieu Rouget, aujourd'hui évêque de Nanterre, fut ordonné à Notre-Dame de Paris. Il fut également le secrétaire du cardinal Lustiger. Le cardinal qui avait fait installer une croix au-dessus de la Pietà, qui semble-t-il n'a pas été trop endommagée. Et l'image de cette croix debout au milieu des gravats et des cendres a beaucoup impressionné.
Le cardinal Lustiger avait beaucoup cherché où mettre une grande croix dans Notre-Dame. Et finalement, il s'est appuyé sur un projet qui remontait au XVIIe siècle, quand la Pietà de Coustou a été installée dans le cœur de Notre-Dame, qui rappelle le vœu de Louis XIII consacrant son royaume à la France. C'est ce qui fait que le 15 août est comme une fête nationale en France, c'est le vœu de Louis XIII. Et finalement, mettre une grande croix derrière la Pietà, la croix d'où descend Jésus, alors pendant la Semaine Sainte, ça prend une force particulière, avait semblé le bon choix. Et donc c'est une œuvre contemporaine, puisque c'est Marc Couturier qui a fait cette très belle croix, très travaillée dans sa forme dorée à la feuille, avec une petite lame de gloire. Et de fait, on est là au cœur du mystère de la mort et de la résurrection. Et Là aussi, ça donne tout son sens à l'événement. C'est-à-dire que c'est un moment de très grande épreuve pour le diocèse de Paris, même pour l'âme française de cette manière, mais dans la lumière de la mort et de la résurrection du Christ, c'est aussi l'annonce de lendemain de grâce.
Qu'aurait dit le cardinal Lustiger ?
Eh bien, je me pose la question et je me demande ce qu'il pense maintenant. Ce qui est certain, c'est qu'il était très, très attaché à Notre-Dame de Paris. Dès qu'il est devenu archevêque, il s'est dit « Paris, c'est Notre-Dame ». Et donc, le lieu où l'archevêque est attendu, c'est Notre-Dame. D'où l'habitude qu'il a prise et que ses successeurs ont gardé de célébrer tous les dimanches la messe du soir à Notre-Dame de Paris. Et il y a des générations de chrétiens, de jeunes qui ont été nourris par ces homélies du dimanche soir. J'en ai été avant d'entrer au séminaire. Il a fondé Radio Notre-Dame comme radio diocésaine et puis francilienne, Paris Notre-Dame comme hebdomadaire diocésain, parce que Notre-Dame lui semblait être la marque du diocèse. Et puis il a aussi beaucoup travaillé à la restauration de Notre-Dame. Il a eu énormément de projets à Notre-Dame, et donc c'était un lieu qui lui tenait profondément à cœur. Et il serait encore vivant aujourd'hui, il serait mais bouleversé, d'autant que beaucoup de chantiers qu'il a menés sont mis à terre par cet incendie et tout ce qu'il a provoqué comme destruction. Mais en même temps, comme c'était surtout un homme d'espérance, je crois qu'il aurait été extrêmement touché par l'élan de reconstruction qui se dessine et passionné par la perspective de cette reconstruction et de tout ce qu'elle dit aussi de la foi et des attentes vis-à-vis de l'Église de notre temps.
Oui, parce que le cardinal Lustiger, c'était un bâtisseur.
C'était un bâtisseur et c'était un homme d'espérance, c'était un visionnaire. Et c'était aussi un homme qui savait saisir les moments favorables.
Michel Kohl, quelques mots sur le cardinal Lustiger.
Oui, Mgr Rouget a tout à fait raison. Et il connaissait très très bien Jean-Marie Lustiger. Il ne faut pas oublier que le cardinal était un innovateur liturgique. Il a été un très grand innovateur liturgique, tout en étant très soucieux de rester fidèle à la grande tradition de l'Église. Moi, je me souviens de sa manière de célébrer dans la cathédrale. Quelle présence et quelle force aussi dans le verbe et dans les gestes. Et moi, il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup touché chez lui. C'était qu'il avait accepté que pendant certains offices, les touristes puissent continuer à déambuler dans les chapelles latérales, là, parce qu'ils voulaient que cette maison reste ouverte. Et que, à la limite, peut-être des personnes passant, découvrant ce qui s'y passait, puissent se retourner, et peut-être se recueillir aussi. Je trouve que c'est une idée, c'est une intelligence extraordinaire que cet homme manifestait vraiment de manière magnifique. Mais c'était une manière aussi de concevoir une liturgie qui n'était pas que réservée, je dirais, à l'élite ou aux initiés, mais qui était aussi porte ouverte, fenêtre ouverte sur les gens qui rentraient par attrait de la beauté de cet édifice.
Lucille, vous vous souvenez du cardinal ?
Oui, absolument. Oui.
Vous êtes toute jeune quand même. Mais...
Oui. J'étais le cardinal Lustiger était donc archevêque de Paris quand j'étais moi-même enfant. Et donc c'est aussi sous quand le cardinal Lustiger était donc archevêque que la nouvelle forme de la maîtrise a été créée en 1992.
Donc c'est grâce à lui.
Voilà, absolument.
Aussi.
Tout à fait. Et donc c'est une école qui accueille donc des enfants aux adultes, aux étudiants professionnels. C'est une école qui est ouverte à tous, et nous avons eu toujours, moi-même déjà enfant, puis aujourd'hui encore comme chef de chœur quand j'y suis, on a vraiment l'impression de toucher le cœur de chacun, puisque les touristes sont effectivement souvent là, très émus parce qu'ils ressentent, quel que soit leur besoin de spiritualité ou non.
Il y a une émotion qui passe, émotion spirituelle.
Et pour tous.
Alors, on a beaucoup parlé ces jours derniers et au début de cette émission, donc de cette cathédrale Notre-Dame de Paris qui raconte l'histoire de France. Alors, une page très importante, vous l'évoquiez il y a quelques instants, Michel Kohl, le 26 août 44, en présence du général de Gaulle, malgré les coups de feu à l'intérieur et à l'extérieur, le Magnificat est chanté, et non pas le Tédéum. Alors, j'en retiens bien.
C'est une erreur majeure.
Oh là là, erreur majeure.
Le général avait beaucoup insisté pour que ce soit un Magnificat.
Un Magnificat. Bon, on revient quand même sur cette page d'histoire grâce à des archives de l'INA.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici un reportage particulièrement émouvant qui nous a été transmis à 16h15 depuis Notre-Dame de Paris.
Le général de Gaulle, très calme, malgré les coups de feu, malgré les coups de pétard, avance vers le chœur. Il atteint actuellement le chœur
et le sacristain, lui, présente son fauteuil, c'est d'ailleurs le fauteuil présidentiel, et je le dis ici, le président de la République. Il se tient droit sous la mitraille, il est vraiment magnifique. Tout au moins dans l'église, il n'y a pas de victime jusqu'à présent. Je demande le salaud qui tire depuis déjà 2 ou 3 jours sur les toits. Quelques-uns s'étaient dissimulés dans les galeries et avaient essayé de faire le coup de feu sur le général de Gaulle jusque dans l'église même, profanant ainsi ce lieu sacré, cette cathédrale de Paris, cette cathédrale de France qui a vu tant de tédium de gloire se dérouler, entre autres celui de 1914-1918 où elle a reçu le général Foch qui était victorieux comme l'est aujourd'hui le général de Gaulle et qui rentre en vainqueur, en libérateur, dans Paris, capitale de la France et dans Notre-Dame, cathédrale de France.
Le général de Gaulle qui se tient droit comme une statue de pierre, qui ne bouge pas, le général de Gaulle, très catholique.
Bien sûr, et qui ne s'en cachait pas, tout en respectant la laïcité à la française. Mais tous ceux qui ont été témoins de cette scène...
Inimaginable.
C'était inimaginable, parce que quand les coups de feu ont retenti, tout le monde s'est mis à plat ventre. Hein, et avec une seule personne qui était droit, debout, devant la Vierge au pilier.
Impassible.
Impassible, le général de Gaulle, droit. C'est très émouvant, mais c'est une grande page de l'histoire de Notre-Dame de Paris.
Oui. Le général de Gaulle, dont les obsèques seront célébrées le 12 novembre 1970 à Colombey, les deux églises, mais dans le même temps, une messe sera donc célébrée à Notre-Dame de Paris.
Tôt ce matin, avant même les premières lueurs de l'aube, des centaines, puis des milliers, puis des dizaines de milliers de Parisiens s'étaient rassemblés dans toutes les rues avoisinant la cathédrale Notre-Dame, où devait être célébré à 11h le service solennel à la mémoire du général de Gaulle. Sous les voûtes de Notre-Dame, tendue de tricolore, peu après 10h, le prince régnier en jaquette sombre traversait le premier la grande allée centrale bordée de gardes républicains, le sabre au clair. C'est ensuite le long défilé des souverains et chefs d'État, le roi Baudouin. L'empereur Haïlé-Sélassié, la reine Juliana, le prince de Galles, le président Nixon, Monsieur Podgorny, le chef de l'État soviétique, le Shah d'Iran. Ils sont 80 chefs d'État et de gouvernement venus rendre hommage à celui que le président Nixon appelait un géant parmi les hommes. Puis c'est la sortie de tous les fidèles. Cependant que sonne au clocher de Notre-Dame le glas.
Beaucoup d'obsèques à Notre-Dame de Paris. On écoute un extrait de l'homélie prononcée par le cardinal Jean-Marie Lustiger lors des obsèques de François Mitterrand. C'était le 11 janvier 1996.
Que François Mitterrand trouve en ce peuple des saints l'aide, le pardon et le courage pour ouvrir enfin ses yeux sur l'invisible. Car, ainsi que le dit l'apôtre Saint Jean, notre cœur aurait beau nous accuser, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Amen.
Barbara Hendricks, lors de la messe célébrée à l'occasion des obsèques de François Mitterrand, le 11 janvier 1996. Ça vous parle, cette voix, Lucille ?
Oui, absolument.
Et cette Barbara acoustique.
Hendrix, dans les voûtes de Notre-Dame. Moi, j'ai jamais eu l'occasion de l'entendre elle-même ici à Notre-Dame. Les voûtes de Notre-Dame sont particulièrement réceptives. On a entendu au début du grégorien. On en chante beaucoup à la cathédrale. Sylvain Dieudonné est chef de chœur spécialisé à ce répertoire-là, le répertoire grégorien, le répertoire de l'école de Notre-Dame, donc qui a fleuri à l'époque de la construction de la cathédrale et tout ce répertoire médiéval. C'est un bonheur d'entendre ce répertoire et c'est un bonheur de le chanter dans ses voûtes. On balaye, je pense, tout le répertoire jusqu'aux créations contemporaines. Et puis, on a l'occasion d'entendre les extraordinaires organistes, que ce soit Yves Castagnet à l'orgue de chœur ou bien sûr nos organistes de tribune.
On referme cette grande page d'histoire racontée par Notre-Dame, j'allais dire, avec la messe célébrée par le cardinal archevêque de Paris, Monseigneur André 23. Nous sommes le 15 novembre 2015. La chorale chante le De Profundis à l'occasion des attentats de Paris.
Les événements tragiques qui ont frappé notre pays ces jours-ci plongent nos concitoyens dans l'effroi et la stupeur. Et ils nous posent deux redoutables questions. En quoi notre mode de vie peut-il provoquer une agression aussi barbare? La deuxième question est encore plus redoutable. Comment des jeunes formés dans nos écoles et nos cités peuvent-ils connaître une détresse telle que le fantasme du califat et de sa violence morale et sociale puisse représenter un idéal mobilisateur?
L'incendie de Notre-Dame, on l'a vu, a suscité un moment de communion nationale et de solidarité. Sur le plan œcuménique, protestants et orthodoxes ont exprimé leur émotion. On a entendu le grand rabbin de France, Raïm Korsia. Et du côté des musulmans, les responsables religieux ont appelé les fidèles à donner pour la reconstruction de Notre-Dame. Avec nous en ligne, Anan Benrouma, rédactrice en chef de Saphir News, un quotidien français d'actualité sur le fait religieux. Anan Benrouma, bonjour.
Bonjour.
Vous avez écrit un très bel édito sur Notre-Dame de Paris. Je rappelle le titre, Notre-Dame de Paris nous appartient tous. Et vous avez repris d'ailleurs au tout début de cet édito le titre, le très bon titre, il est vrai, du quotidien Libération, notre drame à tous. Anan Benrouma.
Donc clairement, effectivement, la rédaction de Saphir News, nous avons estimé pertinent en fait de se saisir de cet événement pour déjà témoigner, mais aussi exprimer cet état de sidération générale qu'a provoqué la destruction partielle de Notre-Dame de Paris, et ainsi que le sentiment de tristesse qui a traversé en fait vraiment l'ensemble de la société française et toutes les composantes de la nation, qui va bien au-delà des catholiques, parce que Notre-Dame, c'est certes un haut lieu de culte, mais c'est aussi un monument historique qui a traversé les âges. C'est une icône touristique et c'est un emblème qui fait véritablement Paris et qui fait France. Tout le monde a été concerné, évidemment, de voir cet édifice brûler, en plus de le voir brûler en direct. Cela témoigne, en fait, quelque part, d'une grande force d'attraction envers ce symbole et aussi un fort attachement des Français dans leur diversité pour ce monument. Et c'est vrai que c'est un attachement, quelque part, qui était inconscient pour un certain nombre de Français et qui s'est conscientisé au moment de l'incendie de Notre-Dame, parce que jusqu'à présent, ce monument leur semblait éternel. Et c'est vrai que nous avons lu énormément de témoignages de personnes qui étaient tristes, qui étaient dégoûtées de ne pas avoir eux-mêmes visité le monument, ou encore de n'avoir pas pu le faire visiter à leurs enfants. Donc c'est vraiment tous ces sentiments-là que nous avons souhaité exprimer à travers cet édito. Ce que nous constatons également, c'est aussi que l'incendie de Notre-Dame a généré un vrai moment en fait d'unité nationale, hein, qui nous a paru aussi très important à la rédaction de Saphir News de souligner, parce que c'est des moments qui sont aussi rares que précieux. Et précieux parce que, tout simplement, c'est l'occasion de faire passer des messages qui viennent concourir notamment à une meilleure cohésion nationale.
Oui, vous écrivez donc, effectivement qu'il faut, c'est une chance, ça donne l'occasion de restaurer sur des bases plus solides le lien social, régulièrement fragilisé effectivement, et par des tensions.
Tout à fait. C'est vrai que la dernière fois qu'on a vécu ce moment-là, c'était Bon, c'était un moment de joie, c'était lorsqu'il y a eu la victoire des Bleus en Coupe du Monde.
Oui.
Maintenant, cette fois, c'est vraiment la tristesse qui a rassemblé, on va dire, les Français autour de cet événement, parce qu'ils ont quand même vu partir en fumée, je le disais, un temps d'histoire de la nation. Et c'est vrai que pour nous, ça nous semblait en tout cas important de simplement passer un message, d'aller au-delà de la reconstruction matérielle et de faire en sorte, en fait, tout à chacun, en fait, de restaurer en tout cas le lien social. Et la solidarité transreligieuse auquel nous assistons actuellement, elle peut clairement y concourir. Hein. Elle se concrétise d'ailleurs, comme vous l'avez dit, par les multiples appels lancés par toutes les communautés pour contribuer à la souscription nationale. Et les musulmans, évidemment, n'ont pas fait exception en fait à cet élan de générosité. Ça montre aussi la force, on va dire, d'attachement à ce monument et puis aussi un attachement aussi quelque part à cette France dans son histoire et dans son patrimoine.
Je vous remercie, Anan Benrouma. Je rappelle que vous êtes la rédactrice en chef de Saphir News. Merci pour votre témoignage. Alors, en conclusion, Michel Coll, est-ce que vous aussi, comme Anan Benrouma, vous voyez un moment à saisir? On est dans un moment historique, d'une certaine façon, même s'il sera de courte durée, mais il est là. Est-ce que pour vous, c'est un moment à saisir pour toutes ces questions compliquées d'unité nationale, d'identité aussi?
En écoutant Anan, je me souvenais que lundi soir, alors qu'on était dans la sinistrose la plus totale, en regardant ces images qui vont nous marquer pendant très longtemps, j'avais lu Notre-Dame du monde entier.
Et Notre-Dame de toute la France.
Et Notre-Dame de toute la France, bien sûr. Et peut-être Notre-Dame de toute l'Europe. Faut pas oublier que c'était l'édifice le plus visité d'Europe.
14 millions.
Hein. Voilà. Donc Notre-Dame de l'Europe. Voilà. C'est très important aussi. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des drames pour qu'on retrouve le goût, la joie de vivre ensemble. C'est ça qui me semble très important.
Ça me rappelle la phrase de Fabrice Lucchini qui dit « Quelque chose de supérieur est venu perturber les calendriers des rencontres médiatiques, de la vie anecdotique, de la frénésie. C'est la métaphysique qui descend dans l'hallucinant débat agité des combats politiques pour affirmer une tragédie, restaurer une gravité. »
Oui, restaurer la gravité, c'est-à-dire l'urgence de se retrouver ensemble, de s'aimer un peu plus les uns les autres. Enfin, j'ai l'air de faire un peu le...
Bon, mais attendez, c'est le dimanche.
Voilà,
c'est le dimanche,
mais
on a le droit.
Un peu plus les uns les autres, ça irait un petit peu mieux. On est tous différents, mais essayons de faire un effort.
Quoi. Eh ben, ça sera le message. Michel Coll, je vous remercie. Le message de Pâques, merci Lucille de Trémiol. Rappelez-nous la date du Festival du Temps du Suspendu, l'été prochain.
Du 29 juillet au 4 août.
Il y aura,
notamment en concert de clôture, la Missa Votiva d'un compositeur magnifique et souvent un peu oublié, Jan Dismas Zelenka, compositeur tchèque baroque.
Et je vous laisse choisir le morceau de la fin pour ce dimanche de Pâques.
Voilà, nous écoutons L'In Violata de Josquin des Prés, donc un compositeur du milieu du 15e siècle, enregistré par la maîtrise de Notre-Dame de Paris. L'In Violata est un morceau particulier pour la cathédrale associé à une liturgie particulière.
C'est la fin des religions du monde. Geneviève Delerue, Sophie Janin vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.